ici Radio Terre. Radio Terre, ici Radio Terre.
Allô les rats ? Ici la Terre.
Bonjour, bonsoir, vous êtes bien sur Radio Galère, vous écoutez l'émission Ici Radio Terre.
L'émission qui déconstruit la construction.
On va vous parler de construction, de bâtiments, d'habitation, de logement, bref, des façons de construire et d'habiter, de leurs impacts sur l'environnement et la société. Depuis toujours, on construit avec ce qu'on a autour de nous, sous nos pieds.
Mais ça a bien changé.
Comment sommes-nous passés d'une pratique collective, où l'habitat était un prolongement du paysage car toujours fait avec les matériaux de proximité, à un des secteurs les plus polluants et aux conditions de travail les plus rudes ?
En effet, en France, le BTP émet à lui seul 23% des gaz à effet de serre. Et on y compte un accident de travail toutes les 2 minutes.
Mais comment pourrions-nous nous inspirer de ce que nous savions faire de bien avant pour imaginer un monde meilleur ?
Nous vous proposons ici d'y réfléchir ensemble.
Mais nous, c'est qui ?
Ben nous, c'est la briqueterie artisanale Rat de Terre. On fabrique des briques de terre crue, aussi appelées adobe.
Mais pas que !
L'adobe, c'est le premier matériau de construction préfabriqué inventé par l'homme. Elle nécessite très peu d'outils.
On peut même la faire uniquement à la main.
Les techniques de construction en terre crue font leurs preuves depuis plus de 10 000 ans et pourraient apporter beaucoup de réponses à nos problèmes actuels.
Vous l'avez compris, ici on aime beaucoup la terre crue, mais on n'est pas là pour faire du lobbying. On est là car on pense qu'à travers nos façons de construire et d'habiter, se cachent nos façons d'évoluer en tant que société.
Et si on veut construire un monde meilleur, commençons par construire de bonnes maisons.
Pleine de terre!
Commençons par un petit jeu. Regardez autour de vous et tentez de déterminer si le bâtiment qui vous abrite date d'avant la révolution industrielle ou non. Affinez la réflexion et voyez s'il date d'après 1948, date communément admise dans le bâtiment pour différencier un patrimoine bâti d'une construction conventionnelle. Regardez tous les matériaux qui composent votre édifice, qu'ils soient anciens ou récents, des murs aux fenêtres, des planchers aux peintures, des interrupteurs aux portillons, du chauffe-eau à l'isolation. Dressez une liste, vous aurez en face de vous une multitude de matériaux qui composeront un jour ou l'autre la poubelle de vos futurs travaux, réalisés par vos soins ou laissés à la charge d'un artisan.
Bonjour, bonsoir, et vous l'aurez compris, on va parler de bâtiments. Donc là, vous venez d'écouter un extrait d'un texte écrit par Hervé. Donc bonjour Hervé.
Bonjour.
Donc nous là, c'est toujours Léa, Vincent et moi, donc bonjour Léa.
Salut.
Bonjour Vincent.
Salut.
Bonjour moi.
Salut Roms.
Alors, comme on vous a dit, on va parler un petit peu avec Hervé, donc je vais t'introduire un peu Hervé, donc on a écouté ton texte. Donc on va effectivement parler de déchets, de bâtiments, de déchets dans le bâtiment, dans le déchets dans la construction de bâtiments et dans sa rénovation. Donc toi Hervé, tu es doctorant en 3 thèses, donc à l'université de Cambridge, à l'USA d'Amérique du Nord. Tu as aussi une maîtrise en matériaux recyclage, sous-cyclage, cyclopéenne à la célèbre université de Yale. Et donc voilà, je voulais parler un peu de ton parcours, c'est ça ?
Ben effectivement, je suis ce qu'on appelle docteur en gammatologie, une filiale très spéciale de la maçonnerie traditionnelle, par différents diplômes acquis au cours de ma carrière internationale.
Donc plus sérieusement, Hervé, tu te définirais comment? On te définit comme maçon souvent?
On me définit comme maçon. J'aime bien dire que je suis maçon traditionnel parce que j'ai l'impression que c'est un terme qui regroupe un petit peu les réflexions actuelles autour de l'écologie et de ce qu'on en chacun en ressent. Et vis-à-vis aussi de la construction à l'ancienne, que je considère comme étant la plus vertueuse parce qu'elle se concentrait à utiliser les matériaux locaux. Et c'est celle qui fait le plus sens à mes yeux, en tout cas, comme définition.
Ok. Donc, vous l'aurez compris, par cette petite boutade universitaire, en fait, tu n'as... Mais as-tu un diplôme? D'où viens-tu? Comment... C'est quoi ton parcours
Alors, en maçonnerie, j'ai simplement un CAP de maçon. Voilà. J'ai commencé, moi, la maçonnerie à partir de mes 18 ans. Donc, j'ai fait un bac parce que c'était le genre de truc qu'il fallait faire pour commencer dans sa jeunesse. Je suis allé jusqu'au bac économique et social. Et à 18 ans, j'avais envie de partir dans un métier manuel. Et j'ai regardé un peu autour de moi, je cherchais un métier qui soit un peu sympa, pratique pour la famille. Et bon, j'ai dit que maçon, ça avait l'air sympa. Et j'ai été motivé par quelques personnes aux journées portes ouvertes des compagnons et je me suis lancé, quoi.
Ok, mais genre tu t'es dit, enfant, je veux construire des maisons ou...
Ben pas forcément, non. Pas forcément. Je sais que mon grand-père a travaillé, j'ai jamais connu, mais il aurait travaillé un peu dans la construction. Mon père a toujours rigolé en disant qu'il était ouvrier hautement qualifié, mais c'est pas vrai, en fait c'était un faux contrat qu'il avait, il était manœuvre. mais il avait bien aimé construire des machins. Et dans le bâtiment c'est pareil, j'avais l'impression qu'on pouvait casser des choses de temps en temps. Et j'étais un peu nerveux, j'aimais bien me défouler. Je me suis dit que ce serait un bon exutoire. Et après j'avais pas forcément de réflexion particulière jusqu'à mes 18 ans, quoi. Je laissais couler. Et après, je suis parti en CAP, en apprentissage chez les compagnons, pendant 2 ans.
Et qu'est-ce qu'on t'a appris chez les compagnons? Il y avait une espèce de tradition particulière dans la maçonnerie, quelque chose d'un peu plus ancien ou pas du tout?
Alors après, ça dépend le parcours qu'on en fait. Chez les compagnons, ils proposent d'abord les 2 premières années en apprentissage, et puis après, ils proposent de partir sur le Tour de France. Le gros avantage des compagnons, c'est un petit peu c'est une école d'excellence, dans le sens où, par exemple, l'internat, le CFA, il est rempli de travaux de compagnons qui sont quand même réellement poussés au niveau de la maîtrise du travail. Ils ont une réflexion sur l'excellence et ils ont une réflexion sur le... Moi, ce qui m'a beaucoup marqué chez les compagnons, c'est la transmission des savoirs. C'est ça l'ADN des compagnons, c'est d'essayer de donner un maximum des choses qu'eux, ils ont pu acquérir grâce à leur rencontre pendant leur parcours compagnonique. Et c'est vrai qu'il y a un partage en général quand même complet, quoi. Ça donne vraiment toutes les astuces, ça garde rien pour soi et... Ça, c'était super intéressant. Donc, j'ai passé mes 2 premières années sur Aix et Marseille. J'ai passé mon CAP, quoi. Et après, je suis parti j'ai fait un petit tour de France. C'est ce qu'on appelle le tour de France chez les compagnons. J'ai commencé par Bruxelles.
Ouais.
C'est pas la France, mais ça marche quand même. Bruxelles, Saint-Étienne, Toulouse, le Gers, la Lorraine. Et après, j'ai fait une année en Nouvelle-Zélande. Et ça m'a permis d'aller dans plusieurs phases... plusieurs parties du métier de maçon. J'ai fait de la maçonnerie donc du coup traditionnelle, j'ai fait de la maçonnerie conventionnelle, j'ai fait du béton armé, j'ai fait du monument historique. Et en fait, c'est ça ce que ça nous apporte. C'est parce que le principe des compagnons, c'est de voyager aussi. Et en fait, quand on change de ville tous les 6 mois, on change d'entreprise tous les 6 mois, on change de façon de travailler tous les 6 mois. Et en fait, ça nous donne une bonne capacité d'adaptation et ça nous fait voir beaucoup de choses. Donc ça a été très très intéressant.
Tu nous avais expliqué tout à l'heure, avant l'émission, que tu as eu un parcours du coup, qui a permis d'aller vers les déchets, enfin vers une sensibilisation par rapport aux déchets. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est fait ça? Parce qu'on n'imagine pas forcément les maçons sensibles aux déchets. Dans la caricature que j'ai dans ma tête, assez étrange du maçon, c'est plutôt un mec qui va faire des décharges sauvages, brûler des trucs pour pas avoir à les amener à droite à gauche. Et est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une caricature? Ou est-ce que toi, tu as une autre sensibilité par rapport à ça?
Oh ben, c'est-à-dire que dans ce milieu, comme dans beaucoup d'autres, il y a des gens qui sont assez caricaturaux, donc des personnes qui font vraiment les choses au maximum et dans le mauvais sens. Ça existe toujours dans le bâtiment. Il y a des gens qui font l'exact inverse et qui s'évertuent à faire des choses correctement, mais ce n'est pas forcément facile tous les jours. Moi, quand j'étais petit, je sais que quand on partait ramasser les asperges ou les champignons dans la forêt... je revenais avec des sacs pleins de déchets, quoi.
Ah
donc
ouais.
C'est ouais, parce que finalement il y en a toujours eu. Enfin, en tout cas dans ma génération, moi je suis de fin des années 80, donc ça m'a toujours marqué quand j'étais petit. Et après, quand je suis arrivé dans le monde du bâtiment, parce que c'est arrivé un petit peu de façon insolite dans ma vie, je n'avais pas prévu, là, j'ai été confronté à d'autres volumes, quoi. C'est vraiment des problématiques qui sont bien plus grandes que ce que j'imaginais. Et là, ça m'a vraiment marqué. Donc, ça m'a permis d'aiguiser un petit peu ma réflexion autour des déchets, mais aussi autour des matériaux. Parce que mon métier, c'est de mettre en œuvre des matériaux, de les transformer, de les imbriquer les uns avec les autres. Et bon, voilà, dans la maçonnerie, dans le bâtiment actuel, dans le bâtiment moderne et dans ce qu'on nous propose, mais c'est, y a du Mickey et du Mac, quoi. Y a beaucoup de choses.
Y a eu ton expérience, du coup, de Tour de France, mais je crois que tu as aussi, du coup, dans ta sensibilité par rapport aux déchets, à un moment, tu t'es impliqué, en fait, dans le ramassage assez, j'ai l'impression, pas, je sais pas, assez intensif, en tout cas collectif des déchets, et dans le fait de faire une marche. Est-ce que tu peux raconter un peu comment t'en es arrivé à cette réflexion-là vis-à-vis du déchet, hein?
Alors, effectivement, c'était en 2015, donc c'était l'année de la... C'était il y a 10 ans, du coup. C'était l'année de la COP21, donc bon, c'était en marge, hein, de la COP21, je n'étais pas invité. Hein.
Mais... Contrairement à ce soir.
Voilà, exactement. Et c'était une réflexion sur... bon, voilà, ça faisait quelques années, du coup, que j'étais dans le bâtiment. J'ai eu l'occasion de voyager un petit peu en Amérique du Sud. Et en fait, je me suis aperçu que, comme en France, comme en Nouvelle-Zélande, en Amérique du Sud, bon, le problème des déchets est bien plus grand parce que ce n'est pas les mêmes questions institutions, ils ne payent pas les mêmes impôts, enfin, ce n'est pas la même gestion des déchets. Et j'ai quand même été profondément marqué. Et je me suis dit, bon, ok, alors en France, on fait un peu les malins sur l'image de pays pseudo-développés, comme quoi on va accueillir la COP21, on va changer le monde et on est un pays propre. J'ai dit, ben vas-y, tu sais quoi, je vais jeter un œil un petit peu sur le bord des routes pour voir ce qui se passe. Et là, je suis tombé plutôt dans la problématique des déchets sauvages, pas spécifiquement les déchets du bâtiment. Alors, on en trouve. Si je croise des décharges sauvages du bâtiment, ça en fait partie. Mais voilà, l'idée, c'était de partir de chez moi, de mon petit village de Puricard au nord d'Aix-en-Provence, et rejoindre la capitale à pied.
Okay. Et quand tu parles des déchets sauvages, entre guillemets, c'était aussi beaucoup de déchets ménagers, je suppose.
Alors, en fait, ça dépend les zones qu'on traverse. C'est-à-dire que c'est des déchets ménagers ou alors, selon les routes, c'est des déchets qu'on consomme dans la voiture. Ça peut être... des fois, il y avait des portions de route où il y avait toujours le même type de bière, froissée de la même façon, jetée à la même distance. Et on savait que ça, c'était un habitué qui faisait toujours le même aller-retour et qui buvait sa bière avant d'arriver à la maison et qui l'achetait sur le bord de la route. Et en fait, on faisait une quantité phénoménale. Voilà, c'est ce que les gens peuvent jeter des voitures, c'est ce que les choses peuvent tomber des camions de chantier quand il y a du vent, c'est ce que les sangliers peuvent arracher dans les poubelles, c'est... Voilà.
Et du coup, là, on pourrait croire qu'on part dans une certaine culpabilisation de l'individu, etc., en disant « c'est pas bien ». Mais quand on s'était rencontrés, on avait aussi pas mal parlé de la... ce qu'on appelle, donc, je sais pas comment on dit, la REP emballage. Mmh. Parce que moi, j'ai l'impression que les emballages, notamment les emballages plastiques, par exemple, dans ma culture, c'est quelque chose qui est venu par la suite après... c'est par exemple Coca-Cola qui a décidé à un moment de faire du plastique. On arrête de faire de l'emballage en verre. On arrête... comment ça s'appelle déjà quand on vient ramasser les...
La consigne.
La consigne, merci. Mmh. Même, tu vois, j'ai oublié ce mot. On arrête la consigne et on fait du plastique. Sur la question de l'emballage, du coup, et des industriels par rapport à ça, tu as des histoires à nous raconter là-dessus
Ben alors justement, quand j'ai fait la marche à l'époque, l'idée, c'était de prendre un peu le contre-pied du discours du culpabilisateur que peuvent avoir les institutions envers les citoyens avec le soutien des industriels qui disent qu'eux, ils font tous les efforts possibles et inimaginables, en disant « bon, ben, c'est pas bien, vous êtes sales, vous jetez des déchets ». Alors effectivement, jeter un déchet par terre en France avec les moyens qu'on a au niveau des poubelles, c'est pas le geste le plus agréable qui existe. Mais en fait, on n'est pas des kangourous, on n'a pas de quoi stocker, on n'a pas des poches sur nous naturelles dans lesquelles on va stocker nos déchets. Et que ce soit il y a 500 ans ou aujourd'hui, il faut bien qu'on se débarrasse des choses qu'on nous met dans les mains. Et on ne choisit pas forcément non plus le système dans lequel on grandit. Et quand il est régi et dominé par la grande consommation et par le plastique et par l'aluminium et par tout ça, bon, bah, à un moment donné, on est obligé d'en subir les conséquences. Et l'idée, c'était justement de ramasser les déchets et de les trier par type de matériaux et de les catégoriser autant que possible par marque pour avoir un petit peu le top 10 des plus grandes marques qu'on retrouve sur le bord des routes. Après, il n'y a pas de surprise particulière. Hein. C'est les premiers vendeurs sont les premiers qu'on retrouve sur le bord des routes. Et pour dire que, en fait, Il y a des gestes que nous, en tant que citoyens, on peut faire, certes, mais on ne pourra pas empêcher la production de matière à la base de leur réflexion. C'est-à-dire que quand ils vont produire une canette, une bouteille en verre ou un emballage et un suremballage et un sursuremballage, on n'a pas de moyen de le maîtriser, ça. C'est-à-dire que si on avait une démocratie complète dans laquelle on nous posait la question et on nous disait « Ok, on peut contraindre ces entreprises-là à réduire leur emballage », certainement qu'on le ferait. Mais on n'a pas les moyens de le faire. Et effectivement, du coup, ils ont utilisé cette fameuse REP emballage, donc c'est une responsabilité élargie des producteurs. C'est une idée qui a germé dans la tête des ministères avec le soutien de la grande distribution et des producteurs en disant « Bon, est-ce qu'on ne serait pas un peu en train d'abuser et d'inonder le marché de déchets? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire une participation ?» quoi.
Ça a un petit peu conscience quand même. Ils ont dit « Ah !»
Ouais. Bah, en fait, ils le savent. Hein. Qu'il faut comprendre, c'est que tous les industriels, tous les grandes marques, les grandes consommations, ils savent pertinemment ce qu'ils sont en train de mettre sur le marché. C'est-à-dire que, par exemple, Saint-Gobain, à l'époque où ils mettaient de l'amiante sur le marché, ils le savaient depuis le début du 20e siècle. Et ils ont eu le droit de le faire encore pendant 95 ans. Okay. Donc, ils savent très bien ce qu'ils mettent sur le marché. C'est juste qu'à un moment donné, ils essaient de jouer le jeu ou de faire semblant. C'est-à-dire qu'après, avec des biais sémantiques dont on va certainement parler après, ils vont réussir à nous intégrer dedans et à nous culpabiliser, nous, sans prendre leurs responsabilités. Donc là, ils font un petit peu genre...
Ok, donc là, ils font le truc avec le ministère. C'est le ministère qui décide, ensemble, de faire la REP.
C'est ça.
Tu veux dire quoi déjà?
Responsabilité élargie des producteurs.
Ok.
En fait, la REP emballage qui est sortie en 1992 en France, c'est globalement le lancement du recyclage. C'est la vision qu'on a, nous, en tant que Français, du recyclage. C'est la REP emballage.
Ok.
C'est ce qui a permis de récupérer de l'argent via une éco-contribution, une éco-taxe, qui va être récupérée par des institutions privées, mais régies par le public, pour récupérer ces taxes-là et redistribuer aux communes pour mettre en place des déchetteries, des poubelles, des camions poubelles et tout un tissu de recyclage à travers la France.
Et qu'est-ce qui paye cette taxe? Du coup, c'est l'entreprise?
Alors ben oui, vu que c'est une responsabilité élargie des producteurs, c'est l'entreprise qui paye cette taxe.
Directement le consommateur un peu, j'imagine, aussi.
Eh ben, a priori, tout ce qui est taxe pour les producteurs, a priori, ils vont réussir à les défalquer sur les consommateurs. Vu les marges qui se font, de toute façon, vu qu'ils ne nous vendent pas les choses honnêtement, ils vont la remettre dans la boucle, quoi. Donc au final, c'est quand même le...
Du coup, tu disais, Léa, pardon, j'ai pas entendu.
Bah que indirectement c'était les consommateurs en fait finalement qui allaient payer.
Ah oui, ils reportent directement cette taxe sur le produit même, comme ça c'est le consommateur qui paye.
Bah après c'est une logique financière, c'est-à-dire que si on en parle à quelqu'un du ministère qui est convaincu de la véracité, de l'honnêteté et l'intégrité de la REP, et il va te dire que non. Mais a priori, bon, si le prix de l'emballage augmente ou si le prix de l'essence augmente à cause du prix du baril, bon bah ça va se ressentir à la pompe. Donc à un moment donné, si on leur augmente les taxes sur les emballages qu'ils mettent sur le marché, on va payer l'addition derrière, quoi.
Voilà, je l'ai dit, je crois que c'était tout. Balancer ma salle de bain pour témoigner. Je suis pas fier quand je me rase. Je vois souvent comme un étranger moche dehors, dedans. J'ai pas confiance en l'être humain. C'est pas aujourd'hui, ça remonte, ça vient de très loin. L'écho des cœurs à la récré entre gamins. On fait au tunique qu'extermine les indiens. Confiance en l'être humain. On a l'air
disant ces trucs de rep sur l'emballage, on voulait aussi parler des différents effectivement, mots sémantiques. On en a noté quelques-uns. Mm-hmm. Je me permets de te les dire. Parce que moi, j'ai du mal à avoir les définitions. Tu vois, quand on parle de valorisation énergétique,
oui.
Ça veut dire quoi, en fait ?
La valorisation énergétique, c'est-à-dire que tu rajoutes, tu récupères de la valeur par un matériau que tu vas brûler, globalement. C'est-à-dire que l'incinération, y en a de moins en moins des usines qui font de l'incinération pure, mais ils ont amélioré le système en se disant, ok, on va brûler les déchets, mais on va en récupérer de la chaleur et de l'électricité en faisant tourner des turbines.
Okay.
Donc en fait, tu as valorisé un déchet en le brûlant, mais tu as quand même créé des pollutions majeures avec des déchets.
C'est des termes qu'on a inventés pour un peu enjoliver certains aspects.
Ah bah oui, bah c'est comme quand tu parles d'économie circulaire, ça veut tout dire rien dire.
Économie circulaire, ça veut dire quoi ?
Ah bah c'est de garder les choses dans le même cycle, dans la même boucle, avec cette idée-là principale du recyclage. Quoi. C'est-à-dire qu'on a cette vision-là du recyclage, de se dire que ça va être recyclé, ça va être très bien.
Ouais.
Alors que recycler, c'est très compliqué à faire. Le recyclage, ça veut dire que tu prends une matière, tu la transformes et tu en refais la même matière avec les mêmes propriétés.
Okay.
Sauf qu'à partir du moment où tu transformes une matière, il y a toujours une perte. Le plastique, le verre, l'acier, tout ça.
En termes de capacité, d'épaisseur.
Physico-chimique, d'épaisseur, de résistance, de durabilité, de choses comme ça.
Donc. Et l'économie circulaire, c'est le fait de quoi que chacun... C'est pas la même chose que le recyclage.
Non, parce que l'économie circulaire, ça peut intégrer beaucoup d'autres types de réflexions.
C'est un peu fourre-tout, l'économie circulaire.
Enfin, ouais, c'est un peu fourre-tout. Mais le mot écologie peut être un mot fourre-tout. Mais le recyclage, pour moi, c'en est un des symboles. Parce que quand on te dit que tu vas recycler du verre, c'est-à-dire que voilà, une bouteille de verre que tu consommes, tu vas l'utiliser, tu vas la vider, tu vas la jeter au recyclage. Et déjà, dans ta main, elle a zéro valeur. Dans la caisse de recyclage, elle a de la valeur pour la personne qui la récupère et qui va la revendre derrière et qui va la retraiter.
Il me semble aussi que, normalement, une bouteille en verre, elle n'est pas censée être utilisée pour un seul usage, même si c'est quelque chose qui est recyclable. Et que déjà là, du coup, il y a une sorte de non-sens des fois sur des matériaux qu'on va les recycler directement, alors qu'on pourrait les réutiliser déjà plusieurs fois avant même... de les recycler.
Ben, c'est ça, c'est-à-dire que quand on prend une bouteille en verre, c'est quelque chose de très très costaud, c'est-à-dire que quand vous la faites tomber par terre, elle ne va pas forcément exploser. Elle est créée pour durer au moins 60 cycles de nettoyage, de consigne et de transport. Et en fait, on nous demande d'être des bons citoyens et de faire un bon recyclage alors qu'on ne l'a utilisé qu'une seule fois.
C'est clair.
Et c'est terrible parce que derrière, pour refondre du verre, on va le mélanger à plusieurs types de verres qui sont différents, c'est-à-dire par exemple en Belgique, ils différencient les couleurs de verre pour faire un meilleur recyclage. En France, ce n'est pas du tout la question. Et on les met dans un volcan artificiel qui monte à 1600 degrés. Donc quand on te parle de sobriété énergétique et d'économie circulaire, c'est bien beau, mais tu mets des usines qui font un volcan à 1600 degrés et tu parles d'économie circulaire, il y a un problème. Et alors que tu aurais pu l'utiliser au moins 50 fois, 60 fois, 100 fois de plus.
Il n'y a pas trop de valorisation énergétique là-dedans, quoi.
Ah bah il y a de la valorisation énergétique, ouais. Parce que du coup, tu vas cramer des pneus aussi, enfin tu peux te permettre. Mais c'est un peu compliqué de... Pour moi, ça me dérange de jeter du verre et de dire qu'on le recycle. D'autant que, par exemple, quand la REP emballage est sortie en 92, ça a signé la fin définitive de la consigne en France, à part, par exemple, en Alsace, parce que c'est un statut différent. Aujourd'hui, la consigne revient doucement, mais par des initiatives privées différentes et tout, en mode Startup Nation, tout ça, alors qu'on a besoin de quelque chose, d'un tissu qui soit...
Plutôt plus fort, quoi, plus consistant plus fort, et plus national.
En fait, c'est une volonté politique. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps... notre grand chef Macron, il a décidé de relancer une politique nucléaire avec des EPR et deuxième génération. Il a demandé l'avis à personne et il a mis des milliards dedans. Il n'a pas dit, je vais relancer la consigne en France et mettre un tissu avec des... Parce qu'en fait, la consigne en France...
Il avait dit même que ce n'était pas possible en France de faire ça pour l'instant, qu'il n'y avait pas la compétence.
Oui, parce que il n'y a pas la compétence. C'est-à-dire on est capable de faire une industrie nucléaire complète et on n'arrive pas à faire une usine avec un tuyau d'eau et un peu de savon pour nettoyer des bouteilles en verre. Enfin, tu vois.
Il y a des priorités dans la politique.
C'est ça.
Et j'avais une petite question toujours sur les terminologies, enfin les termes. Et donc là, on parlait du recyclage et il y a un peu deux autres mots dans le même jargon. Il y a le sous-cyclage et le sur-cyclage. Mm-hmm. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer du coup aussi qu'est-ce que c'est
C'est des termes que les institutions ne vont pas forcément utiliser et ne vont pas forcément médiatiser. Mais c'est-à-dire que le recyclage, c'est le fourre-tout. Mm-hmm. Quand tu transformes par exemple ta bouteille en PET, en polyéthylène, que tu vas mettre dans la benne et qui va être transformé en polaire, eux, ils vont appeler ça du recyclage. Moi, personnellement, je considère que c'est du décyclage parce que tu l'as sorti du cycle de la bouteille en polyéthylène. Et on peut aussi dire que c'est du sous-cyclage parce que tu l'as transformé en coproduit de moins bonne valeur. C'est-à-dire que tu as une perte.
Oui, il y a moins de propriétés.
Tu n'as pas les mêmes propriétés. C'est-à-dire que tu as pris un produit qui n'est pas génial, donc du polyéthylène, mais qui est sous forme rigide, que tu vas transformer en polaire, qui est un petit peu moins rigide, mais que quand tu vas mettre dans ta machine à laver, qui va relâcher 10 000 ou 100 000 fibres à chaque lavage. Et c'est des fibres qui sont tellement fines qu'elles passent au travers des filtres, des stations d'épuration. Et à Marseille, ça part directement à Cortiou et ça part directement dans les Calanques. Mmh. Donc en fait, tu as créé... C'est un exutoire qui est terrible. Tu ne peux pas dire que c'est du recyclage. Il n'y a rien de vertueux. Tu as fait quelque chose de beaucoup moins bien. Tu as perdu de la valeur. Tu as fait du sous-cyclage.
Carrément.
Pour moi.
Et le surcyclage, du coup ?
Alors le surcyclage, c'est le fameux terme d'upcycling que...
Ah oui, l'upcycling.
Voilà, l'upcycling que beaucoup de gens aiment bien utiliser. Moi, je réfléchis pas mal à cette question. La seule technique de surcyclage que j'ai trouvée qui soit crédible et qui soit accessible à pas mal de gens, c'est pas nous qui sommes capables de le faire. C'est pas notre société techno-industrielle qui arrive à le créer. Pour moi, c'est les lombrics. Les lombrics, les bactéries. Tu fais un lombricompost, tu leur donnes des épluchures qui sont avec des nutriments qui ne sont pas assimilables par la nature. Eux, ils vont les manger, ils vont les traiter, ils vont les recracher, ils vont les exécrer, tout ça, et ils vont le transformer en terreau qui est assimilable par la nature. Pour moi, ça, c'est du surcyclage. Tu prends quelque chose, tu améliores sa valeur et tu fais quelque chose de bénéfique derrière pour l'environnement. Mais moi, je n'ai pas trouvé, même moi, dans mes pratiques personnelles...
Le compost
Oui, le compost, quoi. Globale, oui, quoi. Moi, parce que je parle des lombrics, parce que j'aime beaucoup les lombrics, mais le principe du compostage, quand il est bien fait, effectivement, c'est ça, quoi.
Et du coup, si on revient juste sur ton parcours, en fait, sur le fait que toi, tu as marché du coup de Puy-Ricard avec ta poubelle jusque Paname, d'accord ?
Ouais,
à pied ? T'as fait tout ça à pied ?
Ouais,
avec ta poubelle, en tirant ta poubelle ?
Ouais, en tractant ma poubelle, ouais.
T'es pas lourd au bout d'un moment ? Enfin, tu la remplis vite quand même, normalement, la poubelle, non ?
Bah, selon les zones, ouais, tu la remplis vite, ouais.
Après, tu la vider où ?
Alors, je faisais le petit poussé, c'est-à-dire je posais les... Je
faisais des déchetteries sauvages.
Sur le... je les laissais tout dans la nature.
Bon, moi, c'était ensemble.
Je l'ai brûlé. Je l'ai brûlé dès que j'arrivais quelque part. Comme ça,
valorisation énergétique.
Ça. Non, je posais ça le long de la route. Et j'étais avec Lola à l'époque, qui était là en backup logistique avec la voiture. Parce que l'idée, c'est qu'il fallait quand même les trier, les déchets.
Ça, si tu les triais,
c'est-à-dire que tout le long de la marche,
comptais, quoi,
perso, j'ai marché 996 km, j'ai ramassé 38 057 déchets, parce que je l'ai compté, machin. Ça a fait que 812 kg, parce qu'au final, ça pèse pas lourd quand tu ramasses que du plastique et des mégots, par exemple. Et après, tous ces déchets-là, quand on avait les poubelles dans la remorque, on vidait toutes les poubelles, on pesait, on triait par matériaux, on pesait, on triait par marque, on faisait des photos, machin. Et après, on a fait toute une liste, on a fait toute une caractérisation, c'est-à-dire que dans le monde du déchet sauvage et des associations qui font des ramassages, il y a tout un thème caractérisation des déchets. Il y a des protocoles qui existent en Europe, dans le monde, pour comment caractériser des déchets, pour faire de la veille sanitaire et donner des réflexions aux politiques et tout ça. Moi, j'avais inventé mon truc à moi, et puis c'était cohérent avec ce qui existait. Mais moi, j'avais rajouté les marques en disant « Ok, bon, ben, Coca-Cola, c'est bien, vous mettez de l'argent pour culpabiliser les gens. N'empêche que moi, je ne vois pas écrit... Thierry Dupont sur le bord de la route, je vois écrit Coca-Cola, quoi. Ah, okay. Donc le responsable, c'est quand même toi.
Tu en as un petit peu parlé, mais du coup, dans l'organisation de ça, tu n'étais pas tout seul, il y avait quelqu'un qui te suivait pour faire la logistique.
Oui.
Est-ce que tu peux à la fois parler de ça et s'y parler, si tu étais tout seul à faire ce trajet-là jusqu'à Paris, ou c'était une organisation plus grande, il y avait d'autres personnes qui faisaient comme toi, ou c'était une initiative personnelle ?
Alors,
tu peux parler de ces deux choses-là ?
Ouais, c'était une initiative personnelle, et à l'époque, je vivais avec Lola, et quand je lui ai parlé du projet qui était un peu foufou, bah, elle a dit « Allez, chaud, je me motive et je viens t'aider ». Et effectivement, c'était compliqué de le faire juste à pied. Donc c'était sympa, parce qu'on est parti d'Aix et on est monté jusqu'à Paris, on a rencontré plein de gens, on a vu plein de super paysages et tout ça. Donc elle est venue m'aider, il y a mon père et un ami aussi qui sont venus la relayer à un moment donné. Elle s'occupait du côté journalistique aussi, faire en sorte que ça se médiatise un petit peu.
Et du coup, elle ne te suivait pas sur le bord de la route?
Non, par contre, non, voilà. Elle était en voiture et en remorque, et elle n'avait pas envie de marcher sur le bord de la route pour ramasser des déchets, ce n'était pas son délire, tu vois. Et il y a des gens qui m'ont rejoint un petit peu pendant la marche, mais moi, ça me stressait, parce qu'en fait, je conseille à personne de marcher sur le bord des routes pour ramasser des déchets. C'est une idée complètement naze. C'est hyper dangereux. Je suis arrivé à Paris, moi. Le jour où j'ai compris que j'allais plus marcher sur le bord des routes, j'ai fait une terreur nocturne. C'était une catastrophe.
Ah ouais.
Bah, tu te fais frôler par des Cestones à 90 km/h. c'est pas joyeux quoi, comme, comme zone de travail. C'est une idée de merde.
Mais du coup, on fait une terre nocturne à la fin.
À la fin, ouais. Okay. Parce que plus j'avançais, moins j'avais envie de marcher sur le bord des routes parce que j'avais peur, tu vois. Alors je tenais parce que bah, il y avait du soutien des gens tout au long du chemin, mais bon, c'était prenant, quoi.
Tu tenais pour l'idéal, et du coup, l'idéal s'est produit. À la fin, tu as été reçu par Emmanuel, les gens t'ont accueilli à Paris, ils ont ouvert les...
Bah, Emmanuel, alors Emmanuel, il n'existait même pas à l'époque, mais moi, j'étais déjà en marche. on a été accueillis par l'état d'urgence à Paris.
Oh putain. Ouais.
On était censé avoir la plus grande manifestation écologiste de France et d'Europe à Paris pour la COP21. Ils attendaient 1,5 million de personnes dans les rues. Finalement, on n'était plus que 10 000 à se faire gazer sur la place de la République. Ça, c'était un plaisir.
Toi, t'étais avec ta poubelle.
Non, j'étais pas avec ma poubelle parce que quelques semaines avant, il y a des gens qui se sont fait attraper avec des Kalachnikov dans une poubelle. J'ai dit, on va éviter de monter à Paris avec une poubelle. Donc je l'ai redescendu et voilà. Enfin, je l'ai caché, enfin, je l'ai pas prise avec moi, quoi. Ça marquait mal. Et ça aussi, ça, par contre, ça, politiquement parlant, ça a quand même été un petit peu un choc de m'apercevoir que j'avais compris qu'il y avait un peu du pipeau et tout sur les COP. Les COP, c'est comme le protocole de Kyoto. Ça parle plus aux gens. Protocole de Kyoto, ils se sont dit, ok, on va sauver la planète. Ça n'a pas marché. Ils ont retenté ça à Paris. Apparemment, ça marche pas, mais on appelle ça des COP. Ça marche toujours pas. Et ça a été quand même assez violent, quoi. Ça a quand même été assez violent au niveau politique de se dire, ok, les institutions font rien du tout, quoi, et agissent avec violence envers nous et vont continuer certainement. Et bon, en ce moment, ça se confirme.
Du coup, Hervé, là, on a parlé de ton parcours le long des routes pour ramasser les déchets. Mais il y a aussi des déchets qui, des fois, sont cachés sous les routes. Ou aussi, là, on va essayer de recentrer un peu aussi la discussion par rapport aux déchets de manière un peu plus globale dans le secteur du bâtiment, dans la construction. Et donc, je vais lire un nouveau petit passage du texte que tu as écrit. Donc, la route cache de nombreux matériaux destinés à vous apporter de l'eau, de l'énergie, évacuer vos effluents et bien entendu vous permettre d'y marcher ou rouler. Ces réseaux routiers, généralement gérés par les entreprises de travaux publics et collectivités, sont également voués à l'usure et au remplacement dans des proportions bien plus grandes. Pareil pour les écoles, l'hôpital, l'université, le supermarché, le stade, les musées, l'aéroport, les usines, les barrages... Des ouvrages toujours plus grands, des innovations technologiques
à tous les coins de rue et toujours des travaux à prévoir. Cette masse colossale de matériaux et de matériel mélangés les uns aux autres, ce sont des déchets du bâtiment, ceux à venir, ceux à comprendre.
Donc ouais, Hervé, toi tu voulais dire quoi et dans le texte qu'on a lu là et le début aussi de l'intro de l'émission, tu demandes un petit peu aux gens de prendre conscience des déchets dans le bâtiment. Pourquoi t'as écrit ce texte un peu comme ça ?
Parce que c'est un sujet qui me concerne depuis longtemps, qui m'intéresse, qui n'est pas facile à synthétiser. Et donc après la marche, j'ai rencontré beaucoup de personnes dans le milieu des déchets sauvages. Ensemble, on a créé une petite fédération qui s'appelle le Réseau Déchets Sauvages, où on essaye de se réunir chaque année pour parler un petit peu de déchets sauvages, mais pas sur le fait de se dire « Allez, on va refaire encore des ramassages tous ensemble. » En fait, ça, on maîtrise, on connaît. On considère que c'est juste un pansement, quoi. L'idée, c'est d'essayer de fermer le robinet des déchets. Mais il faut savoir se poser les questions. C'est-à-dire qu'on essaye d'avancer nous-mêmes dans la prise de conscience et essayer de donner des clés aux associations qui ramassent des déchets sauvages pour leur faire comprendre un petit peu comment avancer eux-mêmes dans leur réflexion vis-à-vis de leurs déchets, comment ils se positionnent en tant qu'association citoyenne et en mouvement citoyen pour essayer de faire changer leur discours et leur compréhension des déchets à tous. Donc bon, là, le texte que j'ai écrit, c'est pour une participation à un ouvrage collectif avec le réseau Déchets Sauvages.
Je voulais dire, mais par rapport plus au bâtiment, moi, j'ai l'impression que tu invites les gens à regarder en fait, autour de nous où il y a des choses, en fait, on n'a pas l'impression que ce soit des déchets ou que ça pourrait devenir des déchets. Et du coup, comment justement on peut un peu sensibiliser aussi les gens à prendre conscience de ça.
Alors, c'est parce que j'utilise le bâtiment, parce que c'est mon thème de prédilection. Mais en fait, ça marche avec tous les déchets. C'est-à-dire que les réflexions qu'on a, par exemple, au sein du réseau, parce qu'on a beaucoup de sociologues, d'anthropologues et tout ça qui se posent la question, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, le déchet, c'est quelque chose... étymologiquement, ça vient du terme déchoir, choix. C'est quelque chose dont on se débarrasse, qui tombe, quoi. C'est un reste, c'est un rebut d'une coupe, par exemple. Et on a toujours eu cette tendance-là à essayer de le rendre invisible. Et c'est pour ça qu'on les a toujours enterrés, qu'aujourd'hui, on continue à les brûler. Et que si, par exemple, quand vous sortez dans la rue ou vous êtes chez vous, vous mettez les choses dans la poubelle, à partir du moment où vous avez mis les choses dans la poubelle, c'est bon, après, vous n'allez pas vous en occuper. C'est un peu hors de ma vue. Et en fait, la réflexion, que ce soit dans le bâtiment ou dans la consommation classique des gens, c'est cette réflexion-là sur le « hors de ma vue ». Par contre, le problème qui se pose, c'est que peu importe où ils vont se retrouver un jour, comment ils vont se transformer, ils vont rester des déchets, sauvages ou non. C'est-à-dire que demain, vous allez recycler quelque chose, vous allez créer des émissions de carbone et d'autres gaz, par exemple. Bon, vous allez créer un déchet volatile qui va aller ailleurs. Et ça, on ne le voit pas. Et c'est lié... Le bâtiment, c'est parce que, bon, on a des couches qui se mettent les unes sur les autres et on ne s'aperçoit pas de ça. C'est-à-dire qu'en fait, le bâtiment, comparé à une consommation classique de citoyens lambda, par rapport à ce qu'on consomme tous les jours, le bâtiment, on parle de volumes qui sont bien plus importants, quoi.
Donc tu parles de volume en déchets, en taille de déchets, etc., le volume...
Je parle en volume de matériaux qui vont devenir une contrainte par la suite.
Carrément, parce que nous, en plus, on avait un peu pris du coup dans ce paragraphe, effectivement, comme les déchets cachés, en fait. C'est qu'en fait, on ne le voit pas forcément, qu'il y a des enduits à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments quand on les voit d'aspect. Et du coup, on ne sait pas forcément toujours ce qu'il y a à l'intérieur. Là, par exemple, on enregistre l'émission dans un salon. Tu vois, les murs... qu'est-ce que c'est, du coup, du plâtre, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. En fait, même à Marseille, on s'est rendu compte que le bâti, on n'était pas toujours conscient de comment il était fait. Et des amis qui sont cordistes et qui refont les enduits extérieurs me disaient qu'ils remettaient souvent du ciment sur, en fait, des murs qui, pour eux, étaient juste en terre et en pierre, des fois avec un peu de chaud. Ouais. Mais même eux, ils n'avaient pas forcément conscience de ce qu'il y avait derrière. Pour nous, c'était un peu ça aussi, de se rendre compte à la fois du volume, mais à la fois de toute cette partie, comme tu disais, hors de ma vue, cachée, quoi.
Oui.
Et on se disait que par la suite, je ne sais pas si ça vous va pour continuer l'émission, de parler un peu des chiffres dans les textes de Hervé.
Du coup, les chiffres dans ton texte, 7% des émissions de gaz à effet de serre pour le ciment et 8% pour l'acier.
Donc ça, c'est les émissions mondiales, c'est ça?
Oui.
Donc, on en parlait aussi un petit peu dans notre première émission. Et c'est vrai que ces chiffres, bon, c'est assez énorme, mais c'est dur de visualiser. On en parlait un peu à l'émission, ces histoires de chiffres.
Oui.
C'est toujours un peu compliqué. Et après, du coup, dans la suite du texte, il y a quand même un truc important, c'est le... Tu dis, je cite, « Il est admis de dire que la moitié des besoins en matériaux dans le monde est destinée au secteur du bâtiment et que la moitié des déchets produits sur Terre en provient de ce même secteur. » Et moi, c'est sur ça que je voulais un peu insister et qui est quand même... Enfin, du coup, effectivement, quand on parle d'une poubelle chez soi ou là de quelque chose qui utilise la moitié des ressources qu'on consomme sur Terre, forcément, il faut faire les choses bien ou ça peut vite devenir un problème, quoi.
Ben effectivement, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous, on n'est pas tous artisans ou on n'est pas tous, on gère pas tous des collectivités territoriales pour lesquelles on va avoir des travaux à faire. C'est-à-dire que le confort dans lequel on vit aujourd'hui, il est lié à des avancées technologiques et à des matériaux qui ont été produits et qui ont été produits par des industries au fil de l'histoire qui se sont aperçus qu'ils avaient fait des erreurs. L'amiante en fait partie. Les canalisations en plomb en font partie, et il y a encore des dizaines et des dizaines d'années en France pour se débarrasser des canalisations en plomb. Un jour, on va s'apercevoir que le PVC est compliqué, donc on va se débarrasser du PVC pour mettre un nouveau type de plastique.
Avec les PFAS aussi, par exemple.
Avec les PFAS, avec toutes les choses qui se trouvent dans les canapés, les antifumées, les anti-incendies, les choses comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu prends le plastique, dans le plastique, il y a 16 000 additifs différents, possibles et imaginables, pour l'instant, à l'heure actuelle de l'industrie pétrochimique. Ces plastiques-là, on les retrouve autour de fils en cuivre, autour de fils en aluminium pour notre électricité. On les retrouve le PVC, c'est quand même hyper dangereux. C'est-à-dire que les pompiers, c'est ce dont ils ont le plus peur quand il y a un incendie.
Ouais, pourquoi ?
Parce que c'est du polychlorure de vinyle, et dans le polychlorure, il y a du chlore, et que quand le chlore, il se met à brûler, bah tu meurs assez rapidement, quoi. En général, quand tu meurs dans un incendie de maison, c'est parce que tu t'es asphyxié à cause du PVC. Et okay. D'autres choses, et d'autres émanations. Mais ce n'est pas des émanations d'une maison en terre, en bois, en pierre. Effectivement, quand ça brûle, tu as des problèmes, mais quand c'est du PVC, ça va plus vite. Si ta fenêtre, elle brûle, et que le gaz argon, il pète aussi, ça ne va pas être génial.
Parce que moi, dans cette phrase qu'a cité Vincent, c'est que la moitié des besoins en matériaux dans le monde, du coup, sont destinés au secteur du bâtiment. Donc ça paraît logique, parce que différentes sociétés, le bâtiment, ça reste quelque chose d'important pour se loger. Donc que la moitié qui constitue ça, enfin des ressources qui soient faites pour le bâtiment, c'est ok. Sauf que c'est aussi du coup peut-être cette même moitié, comme tu dis, qui sont des déchets produits. Et du coup, non, dans le texte que tu as écrit, tu parles aussi de comment ça se passait, quel était le type de matériau au XVIIIe siècle. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ?
Eh ben, c'est-à-dire que voilà, au XVIIIe siècle, on n'avait pas accès aux mêmes matériaux et à la même technologie, donc on avait une offre qui était moins grande, et on n'avait pas cette espèce de folie de mélanger tous les matériaux pour tester des choses. Alors c'est sûr qu'il y a des avancées technologiques, mais après on en paye le prix quand même. Une maison au XVIIIe siècle, le ciment n'existait pas encore, et le ciment, alors il a des propriétés qui sont exceptionnelles en tant que matériau lui-même, mais qui ne convient pas à un bon nombre de bâtiments. Et par exemple, au niveau des déchets cachés dont on peut parler, des choses qui sont sous nos routes, tout ça, comme le PVC, les canalisations en plomb, des choses comme ça, le ciment, il y a énormément de déchets de l'industrie qui est rajouté dedans. C'est-à-dire que pour la combustion du ciment, qui est déjà quelque chose d'assez fort, c'est-à-dire que...
Donc pour faire du ciment, il faut cuire.
Il faut cuire. Il faut mélanger du calcaire avec de l'argile,
okay,
et le monter à 1450 degrés. Donc c'est-à-dire qu'on est quand même pas loin de la fusion.
Okay, oui, oui.
Si on est vraiment, on est à une composition chimique un peu forte, où vraiment on améliore l'hydraulicité du liant. Enfin bref, ça c'est encore autre chose. Mais on va très fort en cuisson. Donc ça, on ne savait pas le faire avant l'époque industrielle. On a appris grâce à plein d'avancées technologiques. Pour faire ça, l'industrie cimentière a été un grand allié du consumérisme et du capitalisme moderne, parce que en fait, vu qu'ils ont besoin de brûler des choses, eh ben on leur a donné plein de choses, donc des huiles de vidange, des peintures, des pneus, du bois, tout ce que tu veux.
Et donc, c'est ça du coup qui est le C'est du recyclage.
C'est de la valorisation énergétique.
La valorisation énergétique.
C'est là où, justement, ces termes, ils posent un peu question. Parce que, ben, par exemple, les cimenteries, on va brûler des tonnes de pneus pour pouvoir faire monter les fourneaux à haute température et du coup, créer le ciment. Et du coup, après, derrière, on va labelliser ça béton vert parce que on aura utilisé, entre guillemets, un déchet plutôt que...
Ben c'est ça, c'est-à-dire c'est exactement ce qui se passe. Il y a écrit Ecoplanète sur les sacs de ciment, il y a écrit béton vert sur les labels de qualité environnementale, et parce qu'en fait ils se disent que c'est pareil, c'est ça l'économie circulaire, le greenwashing, la sémantique, où ils se disent tiens, on va utiliser des quotas carbone et des idées un petit peu nouvelles pour se dire ok, ben, en fait on a brûlé des pneus, donc c'est bien pour l'industrie du pneu. Parce qu'eux, ils ne les ont pas enfouis, donc nous, on les a brûlés et on en a valorisé une partie pour faire un produit qui ne devrait pas être autant distribué. C'est-à-dire que le ciment, c'est toujours pareil, c'est un matériau exceptionnel, mais qu'on utilise à outrance. Et donc, on utilise des déchets de la société thermo-industrielle pour faire du ciment, mais on en utilise aussi pour les rajouter dans le ciment. C'est-à-dire que dans le ciment, il y a beaucoup de laitiers de hauts fourneaux, il y a des scories, il y a des cendres volantes, en fait, qui sont des rebuts de l'industrie sidérurgique. On va gratter la cheminée, on récupère ce qu'il y a dedans, on le met dans le ciment et ça va améliorer sa prise et sa résistance. On va récupérer la croûte qu'il y a au-dessus de l'acier, on va le broyer, on va le mettre dans le ciment, ça va aussi améliorer ses capacités. Et en fait, quand on parle de béton, et de béton armé. Le béton armé, c'est quand même un mélange de granulats, donc du sable et du gravier, avec du ciment, avec de l'acier. En fait, quand même, l'industrie sidérurgique et l'industrie cimentière sont quand même les deux meilleurs alliés du monde moderne, parce que elles se mangent un peu leurs déchets chacune, quoi. Et elles sont tellement liées qu'en fait, si elles veulent croître, il faut qu'elles imposent cette réflexion-là autour des matériaux.
Mais elles s'auto-alimentent.
Elles s'auto-alimentent.
De symbiose.
Ah ben ouais, elles ont besoin l'une de l'autre, c'est terrible. C'est terrible. Et quand tu cumules les chiffres là qui sont donnés par le GIEC de 8% et 7% d'émissions de gaz à effet de serre, on parle seulement de gaz à effet de serre. On parle pas de problèmes d'enfouissement, de résidus ultimes de combustion, parce qu'en fait c'est bien beau, mais c'est pas parce que tu brûles quelque chose. Par exemple, à Marseille, il y a le gros incinérateur de fosses. Le gros incinérateur de fosses. Quand il va brûler quelque chose, à la fin, s'il te brûle un mètre cube ou une tonne, il va te rester peut-être entre 200 et 400 kilos de déchets ultimes qu'il va bien falloir mettre quelque part. Et en fait, même si on t'a dit hors de ma vue les déchets, il va quand même rester quelque chose. Ils vont jamais disparaître les déchets. C'est ça qu'il faut comprendre dans la composition. Au plus on va mettre de matériaux sur le marché, au plus on va remplir un espace quelque part. Même si c'est pas derrière chez nous.
Tout se transforme.
Ouais, ça se transforme en déchet bien dégueulasse.
Il y a toujours cette histoire de cacher les choses, en fait.
Ah ben oui,
et
c'est mieux.
Ce que tu dis dans ton texte, c'est qu'il faut prendre conscience, c'est que depuis toujours, en fait, on enfouit les déchets. Et si on le voit pas, c'est pas un problème, quoi. Enfin, depuis toujours, c'est une gestion, j'ai l'impression, un peu aussi naturel de l'humain, de si je vois quelque chose, enfin, ou un déchet, c'est pas beau, je vais le cacher et puis je m'en occupe plus. Mais à l'échelle d'une société, sur des années et des années, ça crée des problèmes
considérables, et un jour ça va ressortir. C'est-à-dire que tout ce qu'on a enfoui, faut pas croire, ça va ressortir.
C'est une logique de, en fait, il y a pas de, enfin, il y a ces court-termistes, c'est genre on verra plus tard, nous on sera plus là.
Mais ça peut avoir un impact sur l'environnement, sur les nappes phréatiques, sur l'eau de la mer, sur l'air ambiant, enfin c'est...
Et quand tu dis la moitié des besoins en matériaux dans le monde est destiné au secteur du bâtiment, parce que dans le texte, du coup, c'est parce que tu prends le bâtiment, pas que le ménage, mais tout le bâti, le BTP, c'est ça en fait, c'est cette façon de construire ce chiffre en disant, bah en fait, tu disais dans le... Je me permets de reprendre ton texte, tu disais l'école, l'hôpital, l'université, le supermarché, le stade, les musées, l'aéroport, les usines, les barrages, c'est tout ça en fait qui est pris en compte pour prendre ces 50%, quoi.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est le fruit de notre participation à la société, nos impôts, nos besoins, qui vont faire en sorte par exemple, on construit des autoroutes, besoin ou pas besoin, pour construire une autoroute, il faut une quantité phénoménale de matériaux qui vont créer une grande quantité de déchets aussi. Alors, la spécificité du bâtiment, c'est que c'est beaucoup des matériaux inertes. Et on se dit que c'est pas forcément grave parce que... Alors, des fois, c'est pas grave. Mais le béton, c'est considéré comme inerte parce que ça va pas changer... Ça va pas changer la nature d'un sol ou quoi que ce soit. Enfin, ça va la changer forcément.
Et oui, quand même.
Tu vois ? Mais... Par exemple, sur la réflexion autour du sable, c'est la deuxième ressource la plus utilisée sur la planète après l'eau. Mmh. Alors bon, l'eau, il y a des grandes problématiques autour de l'eau, mais a priori, la quantité d'eau sur la planète ne va pas changer. D'eau disponible, alors ça ne veut pas dire de l'eau potable et tout ça, hein, qu'on soit d'accord. Mais au niveau du sable, on se dit qu'il y en a tellement et que c'est disponible de partout. En fait, pas tous les types de sable sont disponibles pour le bâtiment. Et en fait, on commence à avoir une raréfaction du sable propre à la construction. Et le sable, à partir du moment où tu l'as mélangé avec un ciment, pour qu'il retourne dans le cycle du sable, c'est-à-dire dans les limons pour fertiliser les sols le long du Nil, le long du Rhône et tout ça, ou du Colorado, eh ben, il va lui falloir un paquet de milliers d'années qu'il se fasse éroder de façon naturelle. C'est-à-dire que moi, mon métier, c'est de transformer quelque chose de liquide. Enfin, un mélange que je vais fabriquer liquide pour le transformer en caillou artificiel. Mais à la fin, ça reste un caillou.
Ouais.
Donc, et si c'est du ciment, c'est un caillou qui est dur. Alors avant qu'il soit érodé, il faut du temps, quoi.
Et du coup, comment on faisait avant, au XVIIIe siècle, quel matériau on utilisait? C'était les mêmes problèmes. Le mot déchet avait la même symbolique. Parce que là, on parle quand même de déchets, mais qui sont quand même sur des centaines, voire des milliers d'années, qui vont avoir du mal à retourner à quelque chose de naturel ou d'utilisable.
Mmh.
Et au XVIIIe siècle, c'était les mêmes problématiques. Sur un vieux bâti, je parle.
Sur un vieux bâti, non, c'était pas les mêmes problématiques. Parce que déjà, on était sur des matériaux principalement locaux, sauf si t'es chez un grand bourgeois ou une grande bourgeoise qui a eu les moyens de ramener de la pierre bleue de Belgique. Et bon, si c'est de la pierre bleue, c'est de la pierre, quoi. C'est pas non plus...
C'est ce qu'on appelle le bâti vernaculaire.
Ouais, c'est de la construction locale, quoi. C'est okay. Vernaculaire, on dit ça. C'est une architecture et une conception vernaculaire des choses. C'est-à-dire, bon, je suis à cet endroit-là, je regarde les ressources qui sont disponibles, que ce soit des ressources en eau, des ressources végétales, des ressources minérales, principalement.
Des ressources proches.
Proches, ouais.
Proches de ton lieu où tu veux bâtir, quoi.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que tu vas dans le sud-ouest, tu vas à Toulouse. Bon, bah, ils construisent beaucoup en briques. Tu vas dans le nord, ils construisent beaucoup en briques parce qu'ils ont de l'argile.
Ouais.
Ils ont de la terre argileuse. Il y en a beaucoup moins dans le sud-est. Donc nous, on construit avec de la pierre. Et selon où tu te trouves, bon, bah, des fois, à Aix, il y a des gisements de plâtre qu'il n'y a pas à Carpentras, par exemple. Et en fonction de ça, on utilisait des matériaux qui étaient beaucoup moins polluants au niveau de la fabrication. Parce que bon, le ciment, ça a atteint des niveaux exceptionnels. Il n'y avait pas une grande complexité des mélanges. Et il y avait, par exemple, au niveau des déchets, il y avait forcément une autre vision des choses, parce que il faut pas croire aussi, c'était beaucoup des constructions, pas des petites gens, mais quand même un petit peu, tu vois. C'est-à-dire que si tu as un bâtiment en ruine à côté de chez toi et que tu vois qu'il y a 2-3 poutres qui t'intéressent, tu vas prendre le temps d'aller les récupérer. C'est-à-dire qu'ils vivaient pas forcément dans le même système qu'aujourd'hui.
Mais c'est ça.
Ils faisaient du réemploi. Ils récupéraient les poutres, ils récupéraient les pierres d'angle, ils récupéraient les pierres. Ils ont pas le temps de creuser dans leur champ pour choper des beaux cailloux et les retailler tout en laissant la ruine à côté.
Ouais.
Ils se servaient avec ce qu'il y avait. C'est ça la conception.
L'économie circulaire.
Ça, ben voilà. Non, mais... C'est ça. C'est effectivement l'économie circulaire. Ils n'avaient pas besoin de réfléchir à des termes sémantiques actuels qui veulent rien dire et tout dire à la fois. Bon, ben voilà.
Tu veux dire qu'aujourd'hui, on emploie des mots pour des choses qui n'existent plus vraiment ou qui sont en raréfaction, alors qu'avant, on faisait les choses naturellement.
Ouais. C'est ça. Bah, c'est ce que je considère, en tout cas. Ouais.
Mais c'est qu'aujourd'hui, on invente des concepts, enfin, on croit réinventer des concepts. En fait, on invente un peu l'eau chaude. C'est des choses qu'on faisait très bien avant. Et c'est plutôt, en fait, faut se méfier de tous ces trucs, même les histoires de développement durable, transition énergétique. Enfin, bref, tous ces mots-là, enfin, c'est au contraire, c'est qu'il faut se méfier, quoi.
Ouais.
Même l'économie sociale et solidaire, hein, il faut se méfier des fois.
Oui, c'est ça.
Et pour moi, parce que moi j'avais en tête aussi beaucoup le bois qui est moins utilisé des fois ici parce qu'il n'y a pas forcément de grands arbres dans le sud-est. Mais c'est vrai que les constructions en bois, si tu avais un moment un bois un peu pourri, etc., et que tu voulais changer ta poutre, tu pouvais quand même utiliser une partie de ta poutre ou autre en bois de chauffage, il me semblait.
Bah oui, par exemple. Enfin, Et c'est quelque chose qui se fait, quoi. Ou tu peux la composter si tu veux, ou tu la laisses dans un coin et elle retourne à la nature. Mais tu vois, par exemple, sur ton bout de bois de l'époque, il n'y avait pas un vernis au plomb.
Exactement.
Ou au minimum de plomb, tu vois. Il n'y avait pas un vernis pétrochimique d'aujourd'hui dans lequel tu as peut-être 7000 des 16000 additifs qui existent dans le plastique.
Et du coup, pourquoi on a inventé ces vernis?
Mais pour protéger le bois, enfin. Pour les faire durer,
faire
pour qu'ils soient durables.
Ouais.
Pour qu'ils aient...
Pourquoi autant durables?
Non, après on est spectateur un petit peu de ce qui s'est passé ces 200 dernières années, mais après, il y a eu des avancées technologiques majeures, des trucs de chimie complètement dingues, mais en fait, il ne faut pas mélanger tout ça. Ça fait un peu... Ça m'en fout, quoi, de faire tout ça. Et le bâtiment n'a pas besoin de tout ça, au final. C'est-à-dire, par exemple, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, la quasi-totalité des personnes en France et dans le monde, ils n'avaient pas de douche. Ils n'avaient pas de salle de bain, à part entière. Ils avaient une bassine, ils se lavaient comme ça avec un gant et un machin. Et après, on a inventé le confort moderne, ouais, et on a dit on a tous besoin d'une douche.
Maintenant, il y en a une par chambre.
Maintenant, il y en a une par chambre, c'est ça. Donc en fait, tu construis tes maisons différemment, tu fais des maisons qui sont plus grandes, tu rajoutes des matériaux pour faire de l'adduction d'eau, tu rajoutes des matériaux d'étanchéité, tu rajoutes des matériaux cuits et voilà, tu rajoutes des pertes, tu rajoutes des déchets, tu rajoutes des besoins. Alors je dis pas, moi j'aime bien prendre une douche, il n'y a pas de problème. Mais en fait, à l'époque, bon ben voilà, ils mettaient l'eau sur le poêle, ils faisaient chauffer un petit peu, et ils utilisaient ce qu'ils avaient, quoi. Aujourd'hui, bon, si t'as besoin d'une douche, il vous faut du cuivre, de l'étain pour les raccords, il vous faut un chauffe-eau.
C'est ça. Et puis après, du coup, ta douche, tu tires un levier et t'as l'eau qui arrive.
Ouais.
C'est ce truc caché, invisible, de tout le travail derrière. En fait, non, il faut tirer ton tuyau, il faut qu'il y ait une pompe, il faut qu'il y ait toute une gestion de l'eau propre, de l'eau sale, de machin.
C'est exactement ça.
Et en fait, tout est invisibilisé, que ce soit...
L'extraction
déchets,
du cuivre au voilà. Chili ou...
C'est ça, des aciers qui viennent de je sais pas où, des...
C'est exactement ça, la réflexion. C'est qu'on pense que tout est cadeau, mais sans dire forcément qu'on va tout payer un jour, tout ce qui a été produit, tout ce qui a été généré, c'est une dette qui s'accumule.
C'est ça.
Et c'est quelque chose qu'on va retrouver à un moment donné. Ça part pas. En fait, les déchets disparaissent pas. Ils disparaissent jamais. Ils disparaissent de notre vue. Ils ont beaucoup disparu de nos consciences, mais ils disparaissent pas. Ils sont toujours là.
C'est quoi la maison la plus écologique à construire? Et tu me disais...
Et je disais qu'il valait mieux la restaurer ou la rénover, quoi.
Ouais. Mieux ne pas la construire.
Ne pas la construire, ouais. Ne pas la construire.
S'abstenir.
Bah, c'est-à-dire, après, ça dépend de où je me trouve. Mais c'est-à-dire qu'en France, dans un pays où il y a énormément de maisons secondaires, de maisons troisième, quatrième maison, des bureaux qui sont vides, des logements qui sont vides, il n'y a pas d'intérêt particulier à construire des maisons. On devrait faire une loi. Donc ça, c'est encore une décision politique. On devrait avoir des décisions politiques fortes qui disent « Ok, très bien, on va faire quelque chose par rapport aux logements vacants, et on va faire en sorte qu'ils soient occupés par des gens, quoi. Et on va faire en sorte qu'ils soient restaurés intelligemment et qu'on n'ait pas besoin de... » Parce que c'est pareil, en fait, tu vois, tu parles de greenwashing, tu parles de transition verte et de choses comme ça. Le gouvernement, les institutions, ils en sont plein de programmes comme ça, de zéro urbanisation nette, machin. Mais ça n'arrivera jamais. Ils vont tendre vers ça, mais ils n'y arrivent pas à s'arrêter de grignoter sur sur les champs pour construire des baraques pourries, super mal isolées, qui ne respectent pas les dernières normes environnementales.
Carrément, bah, pour être vert et écolo, soit il faut ouvrir un squat, soit il faut ouvrir des espaces vides, en tout cas se les rapproprier.
Exactement.
Ça, c'est une belle leçon.
Merci.
Voilà, c'est la fin de cette première partie. On va donc continuer cette conversation sur les déchets, notamment les déchets dans le bâtiment, avec Hervé, dans une seconde émission. If I was a sculpture, Lord,
I'm gonna sing it.